les Amphidamicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans ses spécialités. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Mathias Audit, professeur de droit à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, évoque avec nous la faillite de l'État. Cinquième épisode. Une procédure de règlement international de la faillite des États est-elle possible ?
Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur Amicus et plus particulièrement sur cette émission Les Amphis d'Amicus. Donc nous continuons et nous allons conclure aujourd'hui notre voyage à travers la dette d'État avec des questions posées par de fort sympathiques auditeurs auxquelles je vais tâcher, dans la mesure du possible, de répondre.
Bonjour Baptiste de Vendée, pensez-vous que les États doivent cesser d'emprunter ?
Alors, bon, c'est une question complexe, cela dépend évidemment de l'État en cause. Il y a des États qui finalement n'ont pas besoin d'emprunter, notamment ceux qui bénéficient d'importantes richesses naturelles, pas tous. Le Venezuela à cet égard est un contre-exemple, mais enfin la Norvège par exemple, où il y a des États qui effectivement n'ont pas besoin d'emprunter. En revanche, les États qui pour l'essentiel ne bénéficient pas de richesses naturelles sont aujourd'hui, et je crois que c'est une situation qui est internationalement partagée, sont obligés d'emprunter sur les marchés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne parviennent pas finalement à satisfaire l'ensemble de leurs difficultés de financement avec l'impôt. Donc finalement, l'impôt n'est pas suffisant pour faire face à un certain nombre de nécessités financières de la part de ces États. Et du coup, l'autre possibilité, et on rejoint sans doute ici cette idée qui avait été émise par François Ier, lorsque nous l'avons vu lors du premier épisode, l'idée donc ici, c'est d'emprunter plutôt que d'avoir recourir à l'impôt. La conséquence, c'est que l'on emprunte évidemment éventuellement auprès de ses nationaux, mais aussi potentiellement auprès d'entreprises étrangères, de banques étrangères, d'institutions financières étrangères, qui sont également dans la nécessité de prêter parce qu'elles ont des liquidités à placer. Donc c'est en quelque sorte une situation qui arrange tout le monde, à la fois les emprunteurs qui ont la nécessité de se financer et les prêteurs qui ont la nécessité de prêter. Et donc dans tous les portefeuilles des grandes banques, des grandes compagnies d'assurance, des fonds de pension, vous avez des dettes d'État, ce qui prouve bien que ces institutions trouvent un intérêt dans le fait d'emprunter aux États, même si éventuellement les taux d'intérêt ne sont pas très élevés, etc. Du coup, ce mécanisme de l'emprunt, il a en quelque sorte une importance dans le système financier mondial, car il permet tant aux États d'emprunter qu'aux institutions qui en ont la nécessité de prêter et d'assurer un certain rendement.
Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 25 ans et je suis étudiante à Boulogne. Croyez-vous que la France pourrait cesser de se financer par l'emprunt ?
Alors, pour prendre l'exemple plus particulier de la France est un État qui emprunte beaucoup. Peut-être même que si les ratios d'emprunt de la France étaient connus par le grand public, il serait sans doute effrayé de voir ces milliards qui sont empruntés chaque année par l'État français. La France donc emprunte beaucoup. Elle a un taux d'endettement qui frise avec les 100% de son produit intérieur brut. Ce qui fait que finalement, la richesse générée par l'économie française chaque année est identique à au montant de son endettement, ce qui évidemment est un peu effrayant. Alors à partir de ce constat, on se doute qu'effectivement, il serait difficile pour la France de cesser d'emprunter, parce que si elle cesse d'emprunter, elle, sans doute, ne pourra pas faire face ses nécessités de financières, elle ne pourra pas faire face à ses engagements, et sans doute, la France ne pourra-t-elle pas non plus, finalement, rembourser les dettes qu'elle a émises par le passé. Donc il y a vraiment là ici une difficulté auquel on ne peut pas, à mon avis, répondre de manière simpliste en disant que la France doit cesser de payer sa dette. Parce que si la France cesse de payer sa dette, sans doute, et je ne suis pas économiste, ce sont des considérations qui effectivement vont au-delà de mes compétences, mais il me semble que si la France cesse de se financer par l'emprunt, ça signifie que nécessairement elle devra se financer par un autre moyen, et cet autre moyen, c'est l'impôt. Il n'y en a pas d'autre entre les deux. Et donc, finalement, je crois que la France ne peut pas, aujourd'hui, cesser de financer par l'emprunt.
Bonjour, je m'appelle Camille et je travaille à Melun. Savez-vous s'il y a des États qui arrivent à payer leurs dettes ?
Alors, cette question est assez proche de la précédente. Disons qu'il y a des États qui décident de ne pas rembourser leurs dettes. On a vu des exemples au cours des épisodes précédents, l'Argentine en 2001 par exemple. Mais il y en a d'autres récemment, le Nigeria, le Venezuela. Voilà. Il y a effectivement des États qui, d'ailleurs ce n'est pas qu'ils ne souhaitent pas rembourser leurs dettes, c'est qu'ils ne peuvent pas rembourser leurs dettes. Lorsqu'un État ne peut pas rembourser sa dette, finalement, que se passe-t-il ? Aujourd'hui, la situation telle qu'elle existe, dans l'architecture juridique mondiale, c'est que cet État, il doit restructurer sa dette. Autrement dit, il doit se mettre autour d'une table avec ses créanciers, et avec ses créanciers, ils doivent négocier pour, le cas échéant, trouver un accord au terme duquel les créanciers vont accepter un certain nombre de vont accepter de renoncer à une partie de leur dette, et l'État va se retrouver à nouveau dans une situation où il pourra payer sa dette. C'est le principe de la restructuration. La difficulté aujourd'hui auquel on est confronté en matière de restructuration, c'est que dans le passé, les États s'endettaient principalement par crédit bancaire. La conséquence, c'est que finalement les créanciers qui étaient autour de la table, c'était les grandes banques internationales avec lesquelles les États ne voulaient pas spécialement se fâcher, et puis les banques aussi. Donc on était quelque sorte dans un cercle restreint d'intervenants avec des intérêts communs, et ce qui fait que finalement on pouvait trouver une solution. Aujourd'hui, avec l'endettement obligataire, le fait que les États ne s'endettent pas pratiquement plus par crédit bancaire, mais par l'émission d'obligations. Ces obligations, elles peuvent être détenues par, certes, des grandes banques, mais aussi des fonds d'investissement, notamment les fameux fonds vautours. Elles peuvent être cédées sur le marché secondaire, il peut même y avoir des particuliers qui sont susceptibles de détenir des dettes d'État. Dans les produits structurés que des particuliers achètent dans leur agence bancaire au coin de la rue, il est possible qu'il y ait une partie de dettes d'État d'un État d'Amérique latine ou d'un État asiatique. C'est fort possible dans la mesure où ces produits sont précisément structurés et associés en quelque sorte des produits financiers différents. Donc la conséquence, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, les créanciers d'État sont très divers. Non seulement ils sont très divers, mais les États ne les connaissent pas nécessairement, à la différence des crédits bancaires. Lorsque vous souscrivez un crédit bancaire, vous connaissez votre banque, en principe. En tout cas, le conseiller bancaire qui la représente. Lorsque vous émettez une obligation, vous connaissez éventuellement celui qui l'a souscrit, l'institution qui l'a souscrite, mais ensuite, c'est vendu sur le marché secondaire, vous ne savez plus qui, finalement, est titulaire de votre créance. Vous ne savez pas si ce sont des nationaux, si ce sont des étrangers. Vous pouvez avoir quelques informations en fonction des virements que vous faites chaque mois ou chaque année pour payer les intérêts. Vous savez si ces virements sont nationaux, européens ou internationaux. Donc, vous pouvez connaître éventuellement les grandes masses, mais pas plus que cela. Et donc, lorsqu'il s'agit maintenant de restructurer sa dette et de se mettre autour d'une table, évidemment, c'est complexe parce que vous n'avez pas la possibilité de, en tout cas, une possibilité simple de connaître vos créanciers, d'où la difficulté. Et cette difficulté, elle est, exacerbée par le fait que lors de ces négociations, il est possible que certains créanciers privés décident de s'opposer à la restructuration. Hein, c'est ce que la doctrine américaine appelle les hold-out, c'est-à-dire des créanciers qui décident de ne pas participer à la restructuration. Et on ne peut pas leur imposer. C'est ça le problème. Alors on a inventé aujourd'hui un mécanisme qui est la clause d'action collective, qui est insérée dans les contrats obligataires et qui permet de faire passer un accord de restructuration, par exemple avec 65% des créanciers, et l'accord va s'imposer à 100%. Donc il y a ce type de clause qui existe. C'est un mécanisme qui n'est pas forcément totalement satisfaisant, même s'il est, disons, plus intéressant que l'absence, évidemment, de clause d'action collective. Et il n'est pas totalement efficace pour plusieurs raisons. D'abord parce que les petits porteurs de dettes sont, dans une certaine mesure, désavantagés par ce mécanisme. Ensuite, parce que les négociations qui sont faites à la faveur de ce mécanisme de la cause d'action collective sont confidentielles, et donc notamment les citoyens n'ont pas accès à l'information. Et ensuite, parce que les clauses d'action collective ne permettent pas de procéder à une restructuration de la dette dans son ensemble. C'est pourquoi il me semble en tout cas, qu'un mécanisme institutionnel, une véritable procédure internationale de règlement de l'insolvabilité des États pourrait être instituée. Ça avait été envisagé dans le passé, en 1939 à la Société des Nations, et puis au FMI au tout début des années 2000, en 2002-2003. L'idée est parfois réévoquée par le FMI, mais il me semble personnellement que ce serait une bonne solution que d'avoir un véritable droit des de la faillite des États, en quelque sorte un droit international de la faillite des États qui, aujourd'hui, n'existe pas. Et ainsi, les États, pour conclure cette série d'émissions, pourrait ne plus être à proprement parler en faillite. En tout cas, on pourrait internationalement régler cette faillite. Je vous remercie beaucoup pour avoir écouté ces émissions et à bientôt, je l'espère, sur Amicus.
Cet épisode des Amphis d'Amicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphis d'Amicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.